L'Auberge Espagnole sur Divergence FM, vie associative, culture, science, environnement, tout y passe et tous y passent.
Comme son nom l'indique, on parle bien de diversité.
Mais enfin donc, vous, vous amenez en fait du rêve et du rire.
Voilà, de la poésie, de la magie.
C'est comme la littérature ou comme le cinéma, la rencontre est meilleure en fait.
Dans l'Auberge Espagnole, on parle aussi de nos différences ethniques, de nos différences sociales. C'est la notion de diversité.
Jean-Paul Montanari, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation dans cette émission consacrée entièrement au Festival Montpellier Danse. Je rappelle, si c'est encore nécessaire, que vous êtes le directeur de Montpellier Danse et nous nous apprêtions à fêter la 40e édition du festival. C'était entre le 21 juin, ça aurait été entre le 21 juin et le tout début juillet. Une édition qui rassemblait tout à la fois la jeune scène émergente de la danse contemporaine mondiale et qui invitait à nouveau sur cette grande thématique lancée du voir et revoir celles et ceux qui ont fait de ce festival un rendez-vous annuel, international et incontournable. À la sortie du confinement, tous les responsables des grands rendez-vous ont annoncé une annulation pure et simple de leurs événements. Pas vous. Et c'est entre les mois de septembre et décembre 2020 que vous allez proposer un report en cascade et partiel du festival. Alors, à quoi tient le fait que vous soyez les seuls à pouvoir proposer une autre forme de festival ?
À ma folie, sans doute. À une manière de refuser le malheur, qui est récurrent chez moi. C'est une manière récurrente de concevoir la vie. Mais il y a surtout, je crois que Montpellier Danse est profondément inscrite dans la vie de la cité. Je crois que c'est ça la différence avec les autres, éventuellement les autres festivals, mais avec les autres manières de faire. Ça vous aura pas échappé que Montpellier Danse, c'est pas simplement un festival, c'est aussi une grosse forteresse en plein milieu de la ville, sur le boulevard Louis Blanc, pas loin de Radio Divergence, cette grosse agora, cité internationale de la danse, avec ses 7000 m² entièrement consacrés à la danse contemporaine, abritant à la fois le centre chorégraphique et Montpellier Danse, le seul théâtre de plein air du centre-ville, etc. Et aussi une saison danse. Donc en fait, la saison danse, elle commence souvent aux alentours du mois d'octobre, et c'est une participation de toutes les structures qui, sur cette ville, souhaitent faire de la programmation danse. Donc l'Opéra de Montpellier, dont d'ailleurs la saison danse est structurellement inscrite dans son programme, dans son ADN, puisque cette saison danse est la saison danse de l'Opéra de Montpellier. Mais aussi le centre dramatique, le centre chorégraphique, le théâtre de la Vignette universitaire, le Chiasma, le théâtre de Castelnau, quelquefois le théâtre Jean Villard à la Paillade, etc., etc. Enfin, tous les gens qui, dans cette ville, ont envie de faire de la danse, de programmer de la danse, de soutenir la danse, se mettre en commun leur force. Donc on a l'habitude de travailler ensemble. Si au moment du festival, les salles mettent traditionnellement leurs salles à disposition de Montpellier Danse, là, il n'a pas été très compliqué de faire la même chose, mais dans cette zone-là. Donc on a d'abord fait un tour de piste de tous ces collègues dont je viens de citer les noms, de tous ces théâtres. Et ils ont tous très volontiers écarté quelques-uns de leurs projets, il y a quelques mois, ont écarté quelques-uns de leurs projets pour nous laisser la place. Par exemple, je sais que Valérie Chevalier, à l'Opéra, a écarté 2 ou 3 concerts début octobre pour laisser une place. Que le Théâtre des 13 Vents, qui était Nathalie et Olivier Saccomano, qui était en répétition dans le courant du mois d'octobre, ont dit, bon, pendant une semaine, on va répéter ailleurs. Ils nous ont laissé une semaine entière où on va pouvoir accueillir, d'ailleurs, Anne-Thérèse de Cachemaker, ce qui est quand même pas rien. Voilà, donc du coup, on s'est retrouvé avec des possibilités de salles assez nombreuses, et on est retourné auprès des compagnies et on leur a proposé un certain nombre de possibilités de salles. Et donc, on a recasé un certain nombre, 70% de la programmation de ce festival qui aurait dû commencer, qui devrait commencer le 20 juin, qui commencera, nous l'espérons, mais allez donc savoir ce qui se passera, le 19 septembre dans notre théâtre ici, dans notre théâtre de plein air, en espérant que fin septembre, mi-septembre, il fasse suffisamment beau pour qu'on puisse encore faire du spectacle de plein air, et ce, jusqu'à la fin du mois de décembre. 30% de cette programmation n'a pas pu s'intégrer à ce processus, qui est souvent du fait des compagnies elles-mêmes, pour des tas de raisons. Je vais vous passer des compagnies qui viennent de loin, des théâtres à reconstruire, comme par exemple le projet artistique de la Batcheva, qui était à peu près non transportable dans une autre période comme une période festivalière. Particulièrement parce que au théâtre Jean-Claude Carrière, il n'y avait aucune disponibilité pendant la saison. Donc ça sera pour 21. Bouchra Wisgen et sa nouvelle création, la très importante chorégraphe marocaine, parce que sa création était liée à d'autres festivals européens, comme le Koussen Festival des Arts à Bruxelles, par exemple, et donc il y avait des raisons techniques, d'élaboration de la lumière particulièrement, qu'elle voulait faire tout en même temps. Donc elle aussi, elle a préféré le tout reporter à 21. Fabrice Ramalingom, la compagnie Montpellier-Rennes de Fabrice, lui, pour des raisons insurmontables, puisque c'était un travail sur l'accumulation des corps, vu l'imposition, l'obligation de la distanciation physique, c'était un travail qui était... Il ne savait pas quand c'est qu'il aurait pu reprendre les répétitions. Donc lui aussi, avec aussi un côté un peu désespéré, disant « Allez, reportons tout ça à 21 ». Voilà. Et peu à peu, encore un autre aspect, notre très chère Daina Ashby, cette merveilleuse chorégraphe et danseuse qui habite près de Vancouver au Canada, l'a faire venir. Alors, le projet, si ça avait pu se faire là, dans ce moment de la saison, ça aurait été qu'au Cunningham, dans le studio Cunningham. Or, vu le dispositif aujourd'hui, le studio Cunningham ne peut contenir que 35 personnes. Très sincèrement, faire venir une chorégraphe de 8000 km pour 35 personnes, il y avait quelque chose totalement incompréhensible, il y avait quelque chose qui n'est pas possible. Donc ça aussi, on l'a reporté au Festival 21. Donc, voilà. Oh ben, après, voilà, ça, tout le reste, c'est des nuages. Hein. On a l'impression de... Vous savez, quand on est dans un avion, on a l'impression que c'est du solide, les nuages. Et puis en fait, l'avion traverse les nuages très très facilement, parce que c'est pas du solide. Et ben là, c'est pareil. Nous pédalons dans du nuage absolument sans arrêt, donc ne me posez pas de questions, j'en sais pas plus que vous. Donc on a reporté les répétitions, on a reporté les représentations dans des salles, nous allons reporter... Pour ceux qui veulent, on a d'une part remboursé un certain nombre de places à ceux qui voulaient rembourser, et puis d'autres qui voulaient simplement des avoirs, c'est-à-dire continuer à racheter des places quand la location serait de nouveau ouverte. Et donc il est prévu la création d'Emmanuel Gad qui va être en répétition sans doute, qui est prévu ici à l'Agora au mois d'août, comme d'ailleurs en ce moment David Van Paak est en train de répéter, Michel Muret commencera à répéter dans quelques jours, etc. Voilà, donc c'est prévu. Mais vous savez, certains spécialistes pensent que tout ça va repartir mi-août, et donc peut-être que mi-août, vous et moi serons de nouveau enfermés chez nous avec nos livres, nos disques et nos tomates. Hein, donc voilà.
Une malédiction autour de Raymond Hogue.
C'est en tout cas un joli hasard, oui. C'est un hasard puisqu'il avait fait cette même pièce et avait été prévu d'être créé en 2003, ce fameux festival qui n'a pas eu lieu à cause de la grève des intermittents et qui là de nouveau il la reprend et ça de nouveau ça n'a pas lieu. Donc effectivement c'est amusant, oui bien sûr. Même si cette pièce reste merveilleusement chère à notre cœur, puisqu'elle aura eu lieu l'année d'après, donc là elle est prévue d'avoir lieu de toute façon, donc nous verrons bien ce qui va se passer.
Est-ce qu'une crise pareille, ça pousse le directeur que vous êtes à s'interroger sur d'autres façons de fonctionner ?
Pas du tout. Non, pas du tout, parce que d'abord, on a le nez sur l'événement. Donc, si ça durait 4 ans, ça nous forcerait sans doute à faire les choses un peu différemment. Et encore, quoi différemment ? Moi, je ne crois absolument pas une seconde aux solutions de substitution, de création pour Internet, pour les écrans, les machins, les trucs. C'est amusant une fois, deux fois, trois fois, mais en aucun cas, ça ne peut se substituer à cet art qui vient de la nuit des temps, qui est le théâtre, avec sa salle, avec ce rendez-vous de gens qui ne se connaissent pas, qui se donnent rendez-vous dans le même lieu où la lumière baisse et où la scène s'éclaire et où apparaissent des gens qui se livrent à une espèce de rituel un peu étrange qu'on appelle un cool théâtre, un cool la danse, un cool opéra. Ça, si ça doit disparaître, c'est que c'est la fin de notre civilisation, tout simplement.
J'imagine que vous travaillez déjà. Bon, alors, la saison annuelle de Montpellier Danse, je ne m'inquiète pas pour ça. Je sais qu'elle est dans les rails et qu'elle est calée. Comment on imagine, du coup, la 41e édition, en fait ? Est-ce que, malgré tout, vous avez déjà envie de l'imposer, cet anniversaire qui est un peu raté, entre guillemets ? C'est-à-dire qu'il ne va pas se passer comme vous l'aviez prévu, en fait ? Ou est-ce que vraiment il faut passer à autre chose ?
L'anniversaire s'est plié. Hein? Donc, ce qui s'annonce s'appelle Montpellier Danse 40 bis, dans une espèce de sourire, donc, dont la première partie est donc ce report d'un certain nombre de spectacles de ce festival de l'été reporté en automne. Un festival en automne, c'est un clin d'œil à ce qui se passe à Paris aussi. Puis vous verrez, il n'y a pas simplement ce clin d'œil-là, il y en a un autre, puisque l'image du programme qui va sortir mi-août est à peu près la même image que de la 40e édition, simplement légèrement décalée, vous verrez. 40 bis, quoi. Et puis, déjà, on voit apparaître au milieu de ce programme de festival un bout de la saison, puisque déjà en novembre, vous aurez la nouvelle création de Christian Rizzo, vous aurez la présence de Mathieu Rimbolz, vous aurez la reprise d'une pièce de David Van Paak pour le festival méditerranéen organisé par le Théâtre des 13 Vents. Et puis à partir de janvier, c'est le reste de la saison, alors plus habituel, hein, donc voilà, très bien. Et puis l'été d'après, le numéro 41, donc voilà... Pour le numéro 40 et le numéro 40 bis, il n'y aura pas d'anniversaire. Hein. C'est comme ça, c'est fini. Cette histoire est terminée, on passe à autre chose. Et le numéro 41, il est fait. Il est fait parce que j'ai été, d'une certaine manière, contraint à construire une espèce de festival élastique, un peu étrange. C'est-à-dire déjà, il y a déjà plusieurs semaines, s'accumulait un certain nombre de projets. Vous savez bien qu'on fait un festival plutôt longtemps à l'avance et de plus en plus longtemps à l'avance. Hein. Des institutions comme... C'était pas le cas il y a 20 ans. Mais aujourd'hui, des institutions comme Montpellier Danse sont tellement sollicitées que... et puis il y a de la concurrence dans l'air. Il y a la Biennale de Lyon, il y a le Festival d'Avignon, il y a le Festival d'Automne, il y a les autres festivals de danse européens et tout le monde veut avoir le Festival de Marseille, tout le monde veut avoir une première, tout le monde veut avoir etc. Donc en fait, il y a une sorte de compétition à la fois... des festivals entre eux, et les artistes doivent un peu choisir. Voilà. Donc en fait, on est un peu contraint de choisir assez longtemps à l'avance. Donc on avait déjà plus de la moitié de l'édition 41 qui était déjà constituée. Et puis, il est arrivé ce qu'il est arrivé, et donc il a fallu que je rabatte déjà un certain nombre de pièces de 40, du numéro 40 sur le numéro 41, on vient d'en parler, et puis... Et la suite, et si ça n'avait pas lieu en septembre, et si Bagoué ça n'avait pas lieu, et si Gat ça n'avait pas lieu, et si Sharon Eyal ça n'avait pas lieu, etc., ce serait automatiquement abattu sur le numéro 41. Donc déjà, 41, c'est un Frankenstein, hein, on ne sait pas ce que c'est. C'est une espèce de festival de collage avec des choses qui ont existé, d'autres qui auraient dû exister, qui existeront. Enfin, tout ça est très bizarre, et puis... Il faut accepter que ce soit comme ça, c'est une espèce de chaos, une programmation un peu chaotique, élastique, chaotique, mystérieuse, indéfendable, ce qui va être très difficile à expliquer, parce que justement, il n'y aura pas d'explication. Ce sera un collage d'un certain nombre d'œuvres et d'artistes. Le public, il verra pas la différence, même si on voit bien que se dessinent déjà des espèces de lignes de force, parce qu'il finit toujours par dessiner des lignes de force, parce que quand vous choisissez tel artiste plutôt que tel autre, Quelque chose se met à exister de ces choix que vous faites, même involontairement, bien sûr. C'est, j'ai souvent parlé, comme en psychanalyse, de la méthode de marabout bout de ficelle. Vous savez pas pourquoi vous choisissez plutôt que celui-là sur 10 projets qu'on vous met sur la table, vous en choisissez que 4. Et les 6 autres ne vous intéressent pas. Et vous ne savez pas pourquoi, d'une certaine manière. Vous n'arrivez pas, même à artiste équivalent. Même ces 4-là, qui, quand vous les réunissez entre eux, vous doutez qu'il finira par jaillir du sens, par jaillir quelque chose de ce rapprochement de ces 4-là. Et vous attendez. Habituellement, ça sort. Habituellement, on comprend pourquoi ils sont là, ces 4-là, au bout d'un moment. Mais pas tout de suite.
Jean-Paul Montanari, ma dernière question sera plus personnelle. Vous avez suffisamment dit et redit que la danse, Montpellier Danse, est le centre absolu et radical de votre vie. Du coup, un petit moine danseur, si je peux dire petit, pendant le confinement, ça s'occupe comment ?
C'est proche de la mort. Bon, mais c'est comme presque tout le monde, mais on s'y habitue, mais c'est comme une répétition générale de la mort, ou de la retraite, comme vous voudrez, donc on y prend un certain plaisir, hein. c'est pas si mal, on est suffisamment âgé pour avoir tellement travaillé dans sa vie que de rester finalement enfermé chez soi avec un rythme qui peu à peu s'impose et qui moi s'est très vite imposé à moi, qui est je vis la nuit beaucoup, je lis la nuit, je lis beaucoup, je lis la nuit, je regarde beaucoup la télévision la nuit. Donc je me lève très tard et dans la journée je mets de l'ordre parce que je suis un obsédé de l'ordre, donc j'adore, c'est pour ça que j'adore les hôtels entre autres, parce que dans les hôtels tout est toujours c'est toujours carré. Quand vous revenez de votre balade, vous revenez dans votre chambre d'hôtel, tout est et j'adore ça, et donc je vis mon appartement comme un hôtel, c'est-à-dire je remets tout en place, je refais tout comme c'était exactement, impeccable, tout nettoyé, tout rangé, j'adore faire ça. On fait un peu à manger, et puis on lit, et puis on dort, on fait la sieste, et puis finalement on s'habitue à cette espèce d'état de fête. Au début, ça a quand même duré 2 mois, hein, au début on a, comme tout le monde, utilisé monstrueusement le portable, donc on a monté tout ça avec Gisèle de Pouchou, on a monté tout ça au téléphone, hein, tous ces transferts, tout ça a été fait qu'au téléphone. Mais comme tout le monde, hein, passer jusqu'à 6 heures, 8 heures par jour au téléphone. Donc ça occupait beaucoup, 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 beaucoup. Et puis après, on est passé aux visioconférences, machin. Bon, tout ça, c'était un peu pour faire mumuse, parce que c'est pas tout à fait vrai non plus. Voilà, mais est-ce qu'on peut passer toute une vie comme ça ? Je sais pas, sans doute pas, mais... À 72 ans, est-ce que c'est une vie très très différente, une espèce de pré-EHPAD d'une certaine manière? Peut-être, je ne sais pas, je ne me rends pas bien compte, mais c'était pas vraiment désagréable en fait. C'est un peu hypocrite de dire mon Dieu, comme c'était pénible, c'est pas vrai, c'était autre chose et pas si pénible justement, parce que ça vous rend une espèce de liberté, bien sûr, puisqu'on fait ce qu'on veut, hein, d'une certaine manière. Et revenir au bureau a été très agréable, c'était plutôt sympa, surtout que, comme vous savez, j'ai un grand bureau où je suis seul et tranquille. On a expérimenté le télétravail, on en est tous un peu revenus, parce que c'est bien quelques semaines, mais pas trop, parce qu'on est une petite équipe et on est très proches les uns des autres, et très proches intellectuellement, parce qu'on est très loin en ce moment les uns des autres, mais on est plutôt très proches, on est suffisamment une équipe réduite pour pouvoir travailler très souvent les uns avec les autres. Et puis, le fait qu'on ait décidé de ne pas s'arrêter, de ne pas reporter à 1 an toute cette activité, mais au contraire de continuer, effectivement, nous a mis dans le bain tout de suite, même si Je vois bien que depuis quelques jours, je ne me sens pas bien parce que samedi aurait dû ouvrir cette 40e édition et que c'est très... le climat est parfait, les artistes auraient dû être partout en train de répéter, etc. Et on aurait dû passer son temps à finir de régler les derniers détails tout en s'occupant de la prochaine saison, enfin, etc. Et que tout ça, il n'y a rien de tout ça. Et que y a moins de travail et que tout ça est un peu triste, un peu débilitant hein, d'une certaine manière. Bon, en plus, ça tombe exactement en même temps que que les élections municipales. Donc c'est tout ça. Il y a une espèce de remise en cause générale de tout ce qui va se passer dans le futur et c'est pas inintéressant. C'est pas inintéressant du tout.
Nathalie Becquet et Sophie Lichère, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation dans cette émission intégralement consacrée au Festival Montpellier Danse. Alors vous faites toutes les deux parties de cette équipe du festival et de la programmation annuelle de ce lieu Montpellier Danse. On va évidemment parler de la crise, de cette sortie de crise. Vous êtes, Nathalie, vous travaillez à la communication, Sophie aux relations publiques. Avec le public, avec cette énorme casse-tête que doit être l'histoire des places, des billets, on va y venir. Nathalie, vous avez été impressionnante, vous êtes toujours très impressionnante sur les réseaux sociaux, vraiment avec des contenus d'une qualité exceptionnelle. C'était quoi le but pendant le confinement? C'était garder le lien sans pouvoir rien annoncer concrètement parce qu'on ne sait pas. Où est-ce que vous êtes allé chercher tout ça et comment est-ce que vous avez fixé la ligne éditoriale?
Mais on est passé par plusieurs phases. Oui, la première chose était vraiment de garder le lien, de garder le contact avec ce public qui avait vraiment plébiscité le festival. On venait d'ouvrir les locations, on avait déjà placé à peu près 60% de la billetterie, Sophie le confirmera. Et voilà, on avait envie de continuer parce que de toute façon, ce public était très intéressé, on avait une magnifique programmation, un 40e festival, donc on voulait vraiment garder le contact, ça c'était vraiment la première posture. Et dans les deux mois et demi, bien sûr, il y a eu des hauts, des bas. On a commencé à parler de la programmation, de tous les à côté, d'une manière différente de parler des spectacles, sans vraiment suggérer la réservation. Donc on a montré comment les costumes de Sharon Eyal ont été conçus. Voilà, il y a eu plein de choses comme ça. Et je ne travaille pas toute seule, hein, je travaille avec Emma Poignet, qui a beaucoup travaillé sur les réseaux sociaux. Donc voilà, il faut la remercier aussi. Et on est passé ensuite à l'envie de montrer des spectacles, des éditions dernières, tout ça pour arriver à aujourd'hui et toujours ces mêmes questionnements. Et voilà, on essaie maintenant d'aller de l'avant et on a fait une petite pause sur les réseaux, on est un peu plus absent pour pouvoir justement relancer et se remettre d'aplomb pour pouvoir lancer ce festival à l'automne et la saison 2021 qui va arriver bientôt.
Alors Sophie Lichère, vous, on l'a dit en début de l'entretien, en fait, vous travaillez à la relation avec les aux relations avec les publics, en fait. J'imagine que l'État a donné de nouvelles consignes sur les conditions sanitaires, en fait, pour rouvrir les salles de spectacle. J'imagine donc qu'on ne peut plus vendre, penser, compter le même nombre de places. J'imagine que jusqu'à présent, c'était des logiciels qui étaient paramétrés pour ces nombres de places-là. Que ces logiciels n'ont plus lieu d'être, presque, puisqu'on n'est plus du tout sur les mêmes jauges, etc. Quel est le message fort que vous avez à passer en ce moment? Parce qu'on sait, avec Jean-Paul, on a parlé de report, en fait. Donc, que doivent faire les gens qui ont déjà une place, qui n'en ont pas encore? Comment est-ce que vous organisez tout ça?
Alors, en fait, on a fait un petit peu par priorité, puisqu'on a proposé aux personnes de leur faire des avoirs. On appelle ça un porte-monnaie, en fait, c'est une somme donc, qui correspond à leurs billets annulés, qu'ils vont pouvoir réutiliser sur la rentrée, sur les reports des spectacles du festival, et aussi sur les spectacles de la saison. Et donc c'est eux qui vont être prioritaires par rapport effectivement à ces jauges qui bougent. Là, on est même pas à un tiers sur certaines grandes salles comme Berlioz ou l'Opéra Comédie. Donc c'est très compliqué. On a pris la décision d'ouvrir en non numéroté, hein, là jusqu'à la fin de l'année, pour que ce soit plus simple pour nous pour gérer si jamais on doit réajuster les jauges, que finalement on ouvre un peu plus. Voilà. Donc on va traiter en priorité les personnes qui nous ont soutenus et qui n'ont pas demandé de remboursement, qui ont préféré avoir un avoir, justement. Et voilà, donc on commence par elle quand on revient à la mi-août. Et ensuite, en septembre, enfin fin août, début septembre, si tout va bien, on ouvrira pour les autres personnes qui n'ont pas d'avoir. Voilà.
Concrètement, et pour sourire, ça veut dire que vous allez vous remettre à découper des tickets parce que si les places sont plus numérotées, vous allez, il y a plus d'éditeurs de billets, c'est ça?
Alors là, on le fait quand même, c'est toujours avec notre logiciel. D'accord. À part qu'effectivement, on le fait en non numéroté, donc c'est beaucoup plus malléable au niveau des jauges, hein, parce que si on est en numéroté, là, on peut pas changer sans arrêt, hein, tous les jours, c'est pas possible. Donc, quitte à, effectivement, après, à mettre sur le billet telle zone, à la main, quoi. Ça, voilà, on revient un peu à des choses ancestrales, un peu archaïques, mais bon. Mais bon, on va faire comme ça. Et puis, les gens nous soutiennent. Les gens sont tellement contents qu'on leur propose quelque chose à la rentrée. Donc, ça c'est vrai que ça leur fait du bien. Ça nous fait du bien à nous. Ça leur a fait du bien à eux aussi d'avoir cette perspective-là. Donc, ils nous soutiennent. Et puis, ils vont s'adapter, comme nous, quoi, hein, voilà.
Alors en matière de communication, on fait comment, en fait? Parce que là, on est sur un report sans certitude. Montpellier Danse, c'est quand même un énorme festival, hein, donc c'est beaucoup de médias et de journalisme autour. En fait, mais j'imagine que c'est national, que c'est unanime, en fait, tout le monde est face au même problème. Sauf que vous, Montpellier Danse, vous êtes engagé dans cet axe très fort avec ce report qui aura lieu entre octobre et décembre. Presque 70% des spectacles reportés à ce moment-là. Vous ne pouvez pas encore communiquer, vous attendez?
Alors on attend, mais on ne va pas attendre bien longtemps. On a choisi d'annoncer dès le 20 juin les dates des spectacles du festival qui sont reportés à la rentrée pour permettre justement aux gens qui ont demandé un avoir d'avoir cette information-là, de pouvoir se positionner. On sait par exemple que le spectacle de Mourad Merzouki a lieu autour de Noël, qui est, voilà, c'est pas une date quand même facile. Voilà, les gens pourront donc se positionner sur des dates. Comment on communique? On essaie d'être sincère avec les gens et le plus clair possible. On va sortir un programme à la rentrée, fin août, quand les gens vont rentrer de vacances, ils trouveront dans leur boîte aux lettres le programme de Montpellier Danse 40 bis, festival plus saison. Donc la programmation du festival reporté, ainsi que la saison qui ira donc ça partira du 19 septembre et ça se terminera au mois de mars. avec tout ce qu'on va pouvoir proposer. C'est une programmation idéale, une proposition. On croise les doigts pour que tout aille bien et que tout ça pourra se passer dans les meilleures conditions. En tout cas, on prend ce pari-là d'aller de l'avant et de tout faire pour que les choses puissent avoir lieu. Et si ça n'a pas lieu, ce ne sera pas notre sort. En tout cas, nous, on aura tout fait pour que ça puisse fonctionner.
Bien sûr. Sophie Lichard, dans votre travail, il y a aussi il y a un volet accessibilité, on en parlera un peu plus tard. Et puis, c'est vous aussi qui gérez tous ces spectacles qui, normalement, ont lieu pendant le festival, quand il peut avoir lieu de façon classique et traditionnelle, c'est-à-dire ces grands rendez-vous de danse un peu partout dans la métropole. J'imagine que pour le public, c'est une grande déception, même si tout le monde peut comprendre. D'aucune manière, ça ne pourra être reporté.
Donc on n'a pas pris la décision de le reporter effectivement à l'automne. Ce sera reporté sur l'édition prochaine, a priori, voilà.
Dont certains noms étaient programmés pour cette année-là et se retrouveront là. En matière d'accessibilité, vous en êtes où à Montpellier Danse?
Là, du coup, on avait le spectacle de Christian Rizzo qui devait être proposé en audiodescription. Étant donné que ce spectacle n'aura pas lieu à l'automne, il n'y aura pas a priori d'audio-description sur la fin de l'année, mais j'espère bien qu'il y en aura sur 2021 et puis il y aura d'autres choses. Moi, je continue les ateliers que je mène avec Patricia Loubière, donc avec des personnes justement déficientes visuelles, des personnes sourdes et malentendantes, etc. Ça va reprendre a priori si tout va bien.
Sur la saison,
saison 2021 et tout ce qui est aussi visite en langue des signes. Des choses comme ça, donc on a le soutien de la Matmut pour ça, donc ça devrait perdurer si les conditions, on va dire, sanitaires le permettent, toujours pareil, quoi.
Vous êtes une petite équipe, vous êtes une petite équipe pour un si gros monument. D'abord, ça fait combien de temps chacune que vous travaillez au sein de cette équipe?
Une éternité, non, je rigole. Pour ma part, depuis 2001.
Et toi? Donc moi, c'est 2000. Non, fin 99. Non, je réfléchis parce qu'on est arrivé. Je suis arrivée juste un peu avant Nathalie.
Donc vous avez aussi connu toutes les deux l'année 2003, l'année des intermittents, qui fait quand même drôlement écho avec cette année-là. En fait, c'est ce genre d'année-là, on en discutait juste avant de préparer l'entretien, et vous dites, là, c'est dur moralement, on arrive aux dates auxquelles le festival aurait dû débuter, on était tous très mobilisés, etc. Il faut continuer de travailler, mais différemment, sans trop savoir, etc. C'est des années que vous qualifiez comment, en fait?
2003, c'était un peu différent. On avait tout préparé et c'est vraiment sur le moment du festival, 4-5 jours après, que la décision était prise de l'annuler. C'était dans un climat social totalement différent. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment comparable. Ce qui est comparable, c'est la tristesse qu'on peut ressentir, hein, de ne pas avoir les spectacles pouvoir avoir lieu. Quoique, il risque d'avoir lieu à la rentrée, donc rien n'est perdu. Les chorégraphes commencent à rentrer en résidence. David Van Paak, en ce moment, ouais, répète à l'Agora. Michel Muret commence demain. Emmanuel Gade va venir au mois d'août. Voilà, donc il y a quand même une énergie, même si on sent que tout le monde est prudent, il y a quand même une énergie qui est différente de 2003, où, en effet, cette date du 20 juin, là, va être très compliquée à gérer pour chacun d'entre nous. Mais 2003 était différent, je ne les comparais pas.
Oui, c'est vrai que là, il y a eu un écroulement total au mois de mars, ouais, puisqu'il fallait faire le deuil un petit peu de ce festival qui n'aurait pas lieu, hein. Et en même temps, il y avait une lueur d'espoir, puisqu'on s'est quand même assez rapidement, Jean-Paul Montanari a essayé d'imaginer des reports sur la rentrée. Donc, toute l'équipe derrière, on a eu cette lueur d'espoir qui fait qu'il y a, voilà, il y a une petite flamme qui est apparue. Alors que 2003, ça a été les 3-4 premiers jours du festival où rien ne pouvait avoir lieu, où on annulait au fur et à mesure, puis finalement la totalité du festival. C'est pas la même dynamique, même si
c'est le
même désarroi et c'est le même travail en termes de, oui, billetterie, par exemple. Oui. C'est de toute manière des annulations de billets toute la journée.
Oui. Merci à toutes les deux. On reviendra vous voir dès que ce programme sortira pour annoncer des choses qu'on espère plus concrètement, avec des dates, des noms de chorégraphes qu'on aura pu mettre à des dates, avec grand plaisir. Merci à vous deux.
L'Auberge Espagnole sur Divergence FM, vie associative, culture, science, environnement, tout y passe et tous y passent.
Comme son nom l'indique, on parle bien de diversité.
Mais enfin donc, vous amenez en fait du rêve et du rire.
Voilà, de la poésie, de la magie.
C'est comme la littérature ou comme le cinéma, la rencontre est meilleure en fait.
Dans l'Auberge Espagnole, on parle aussi de nos différences ethniques, de nos différences sociales. C'est la notion de diversité.